Chapitre 14. Dehors, les pluies hivernales avaient commencé. Ma lionne avait mis bas et ses petits se bousculaient devant le foyer sur leurs pattes toutes neuves et maladroites. Je n'arrivais pas à en sourire. La terre semblait résonner sous chacun de mes pas. Au-dessus de moi, le ciel étendait ses mains vides. J'attendais le retour d'Hermès pour qu'il me raconte ce qu'il était advenu de Médée et de Jason. Mais il savait toujours quand j'avais envie qu'il vienne et s'en abstenait généralement. J'essayais de tisser, mais j'avais la tête ailleurs. Maintenant que Médée avait donné un nom à ma solitude, elle était partout, accrochée telle une toile d'araignée, impossible à éviter. Je courais le long de la plage, arpentais en haletant les sentiers forestiers de haut en bas pour tenter de m'en débarrasser. Je passais et repassais au peigne fin mes souvenirs d'Aétès, toutes ces heures où nous nous étions appuyés l'un contre l'autre. Cette vieille sensation écœurante revenait. Savoir que toute ma vie, je m'étais comportée comme une imbécile. J'avais beau me rappeler que j'avais aidé Prométhée, cette justification était pathétique même à mes propres oreilles. Combien de temps allais-je me raccrocher à cette poignée de minutes, comme si je pouvais m'en servir à la manière d'une couverture miteuse pour me couvrir? Peu importe ce que j'avais fait alors, Prométhée était sur son pic et moi ici. Les jours passaient lentement, s'effeuillant, tels des pétales de rose dans le vent. J'agrippais le métier en cèdre pour me forcer à respirer son parfum. J'essayais de me remémorer les cicatrices de Dédale sous mes doigts, mais ces souvenirs n'étaient que du vent et s'envolaient. « Quelqu'un va venir, » pensais-je. « Tous ces vaisseaux qui sillonnent le monde, tous ces hommes, quelqu'un va forcément venir. » Je scrutais l'horizon jusqu'à ce que ma vision se brouille, dans l'espoir de voir des pêcheurs, un navire marchand ou même une épave. Il n'y avait rien. J'enfonçais ma tête dans la fourrure de ma lionne. Il existait sûrement un tour divin pour que les heures s'écoulent plus vite, pour qu'elles passent sans que je m'en aperçoive, que je dorme pendant des années et qu'à mon réveil le monde soit régénéré. Je fermais les yeux. La queue de ma lionne frappait les dalles de pierre en cadence. Une éternité plus tard, quand je les rouvris, les ombres n'avaient même pas bougé. Elle était debout au-dessus de moi, les sourcils froncés. Les cheveux et les prunelles sombres, avec des membres ronds et un visage propre comme un sou neuf. Une odeur familière émanait de sa peau. De l'huile à la rose, conjuguée à celle de la rivière de ma grand-mère. « Je suis venue pour te servir, » déclara-t-elle. Je somnolais dans mon fauteuil. Je levai la tête, la vision trouble, pensant qu'il devait s'agir d'une apparition, d'une hallucination provoquée par la solitude. « Comment ?» Elle fronça le nez. Apparemment, elle avait épuisé toute son humilité dans cette première phrase. « Je m'appelle Alki. Nous sommes bien à Ea. Tu es bien la fille d'Hélios. » « Oui. J'ai été condamnée à être ta servante. » On aurait dit un rêve. Lentement, je me remis sur pied. « Condamnée ? Par qui ? Personne ne m'a informé de quoi que ce soit. Parle ! Quelle puissance t'envoie ? » Les nymphes montrent leurs sentiments comme l'eau ses ondulations. Quelle que soit la façon dont elle avait envisagé cet échange, il ne se déroulait pas comme prévu. « Les dieux supérieurs m'envoient. »« Zeus ? Non, mon père. » »« Et qui est-ce ? » Elle nomma un dieu rivière mineur du Péloponnèse. J'avais entendu parler de lui, je l'avais même peut-être déjà vu, mais il n'avait jamais fréquenté le palais de mon père. « Pourquoi t'avoir envoyé chez moi ?» Elle me fixa comme si j'étais la pire demeurée qu'elle ait jamais rencontrée. « Tu es une fille d'Hélios ?» Comment avais-je pu oublier les coutumes des dieux mineurs ? Leur manière désespérée de grappiller n'importe quel avantage. Même en disgrâce, le sang du soleil coulait encore dans mes veines, ce qui faisait de moi une maîtresse désirable. Pour quelqu'un comme son père, cette disgrâce constituait un encouragement, car elle me rabaissait suffisamment pour qu'il ose un geste en ma direction. « Pourquoi as-tu été punie ?»« Je suis tombée amoureuse d'un mortel, un noble berger, » Mon père n'était pas d'accord et maintenant je suis obligée de faire pénitence pendant un an. » Je l'examinai. Son dos était droit et elle ne baissait pas les yeux. Elle ne laissait transparaître aucune peur, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis de mes loups et de mes lions. Et son père avait désapprouvé son choix. « Assieds-toi. Sois la bienvenue. » Même si elle s'exécuta, sa bouche resta froncée comme si elle avait mangé une olive encore verte. Elle regarda autour d'elle d'un air dégoûté. Lorsque je lui offris à manger, elle détourna la tête à la manière d'un bébé boudeur. Dès que j'essayais de lui parler, elle croisait les bras en fronçant les lèvres. Elle ne s'ouvrait que pour formuler des plaintes, au sujet de l'odeur des teintures qui bouillaient sur la cuisinière, des poils de lion sur les tapis, et même du métier de dédale. Et malgré toutes ses prétentions de me servir, elle ne proposa pas de porter un seul plat. « Inutile d'être surprise, me dis-je. C'est une nymphe, c'est-à-dire un puits sec. Rentre chez toi alors, puisque tu es si malheureuse. Je lève ta punition. » « C'est impossible. Les dieux majeurs ont donné un ordre. Tu ne peux rien faire. Je reste un an. » Alors que mon refus aurait dû la perturber, elle ricana, se rengorgeant comme si elle venait de remporter une victoire en public. Je l'observai. En mentionnant les dieux qui l'avaient exilée, elle n'avait manifesté ni colère ni chagrin. Elle considérait leur autorité comme naturelle, irrésistible, de même que les mouvements des sphères. Mais j'étais une nymphe comme elle, également en exil, fille d'un père plus important, oui, mais sans mari, ni doigts sales, ni coiffure bizarre. Voilà qui me mettait à sa portée, devait-elle imaginer. C'était donc moi qu'elle allait combattre. Tu es bien sotte. Je ne suis pas ton ennemi, et ce n'est pas en faisant la tête que tu obtiendras le moindre pouvoir. Ils t'ont convaincue. Mais au moment où j'allais formuler cette pensée à haute voix, je m'arrêtai. Pour Alki, ce serait comme si je parlais persan. Elle ne comprendrait jamais, ni maintenant, ni dans 1000 ans. De plus, j'en avais assez de donner des leçons. Je me penchai vers elle, résolue à employer des arguments qu'elle comprendrait. « Voilà comment les choses vont se passer, Alki. Je ne te verrai pas, je ne t'entendrai pas. Débrouille-toi pour que je ne sente pas ton huile à la rose et que je ne trouve pas tes cheveux éparpillés dans ma maison. » Tu te nourriras toi-même, tu t'occuperas de toi toute seule, et si tu me causes encore le moindre problème, je te transforme en orvet et je te jette en pâture aux poissons. » Ses sourires méprisants s'évanouirent. Elle blêmit avant de s'enfuir, les doigts pressés sur la bouche. Après quoi, elle resta dans son coin comme je lui avais ordonné. Mais la rumeur s'était répandue chez les dieux qu'Ea était un bon endroit où envoyer les filles récalcitrantes. Une dryade ayant fui le mari qu'on lui destinait arriva. Deux oréades impassibles suivirent, exilées de leur montagne. Désormais, chaque fois que je tentais de jeter un sort, j'entendais des bracelets qui s'entrechoquaient. Lorsque je travaillais à mon métier à tisser, elles apparaissaient et disparaissaient fugitivement de mon champ de vision. Elles chuchotaient et bruissaient dans tous les coins. Il y en avait toujours une qui se penchait mélancoliquement au-dessus d'un bassin lorsque je voulais nager. Quand je passais, leur rire railleur me poursuivait. Il n'était pas question que je me remette à vivre ainsi. Pas sur Ea. Je me rendis dans la clairière pour appeler Hermès. Il arriva en souriant déjà. « Eh bien, tes nouvelles servantes te conviennent-elles ? » ?»« Pas du tout. Va trouver mon père et vois comment les renvoyer. » Je craignais qu'il ne se rebiffe d'avoir à s'occuper de cette corvée, mais au contraire, il la trouvait trop amusante pour la rater. À son retour, il s'écria « À quoi t'attendais-tu ? Ton père est ravi. Selon lui, ce n'est que justice que son sang supérieur soit servi par des divinités mineures. Il va encourager d'autres pères à envoyer leurs filles. » « Non, je n'en accepterai pas d'autres. Dis-le-lui. » En général, les prisonniers ne dictent pas leurs conditions. Si mes joues se mirent à brûler, je pris soin de n'en rien laisser paraître. Raconte-lui que je leur ferai quelque chose d'horrible si elles ne s'en vont pas. Que je les transformerai en rats. J'imagine que Zeus n'aimera pas ça. N'as-tu pas déjà été exilé pour avoir jeté ce genre de sort au tien? Tu devrais prendre garde à ne pas aggraver ta punition. Tu pourrais intercéder en ma faveur. tenter de le persuader. » Ses yeux noirs scintillèrent. « J'ai bien peur de n'être que le messager. »« S'il te plaît, » insistai-je. « Je ne veux vraiment pas d'elle ici. Je n'essaie pas d'être drôle. »«
Non, effectivement. Ta réaction est particulièrement assommante. Sers-toi de ton imagination. Elles doivent bien être bonnes à quelque chose. Emmène-les dans ton lit. »
C'est absurde. Elle s'enfuirait en poussant des cris.
C'est toujours le cas avec les nymphes. Mais je vais te confier un secret. Elles sont lamentables quand il s'agit de s'enfuir.
À un banquet divin, une plaisanterie de ce genre aurait été accueillie par des hurlements de rire. Hermès attendit ma réaction en souriant de toutes ses dents. Cependant, je ne ressentais rien d'autre qu'une rage glacée.
J'en ai terminé avec toi, annonçai-je. Il y a longtemps que c'est fini, que je ne te revois plus.
Son sourire ne fit que s'accentuer. Il disparut et ne revint pas. Ce n'était pas par obéissance. Lui aussi en avait terminé avec moi, car j'avais commis l'impardonnable péché de me montrer ennuyeuse. J'imaginais sans peine les histoires qu'il racontait à mon sujet, mon manque d'humour, mon irritabilité, mon odeur de cochon. De temps en temps, je sentais sa présence, juste hors de ma vue, quand il allait retrouver mes nymphes sur les collines et les renvoyait, gloussantes et rougissantes, grisées que ce grand Olympien leur ait accordé ses faveurs. Apparemment, il pensait que j'allais devenir folle de jalousie et de solitude et les transformer en rats pour de bon. Il y avait 100 ans qu'il venait sur mon île et, durant tout ce temps, il ne s'était jamais soucié d'autre chose que de son propre amusement. Les nymphes restèrent. Lorsqu'elles avaient terminé leur service obligatoire, d'autres venaient les remplacer. Elles étaient parfois 4, parfois 6 ou 7. Elles tremblaient sur mon passage, m'évitant et m'appelant « maîtresse », mais cela ne voulait rien dire. On m'avait remise à ma place. Il suffisait d'un mot et d'un caprice de mon père pour que ces pouvoirs dont je me vantais s'évaporent. Pas même mon père, d'ailleurs. N'importe quel dieu fleuve avait le droit de remplir mon île de nymphes et je ne pouvais pas l'en empêcher. Les nymphes flottaient autour de moi. Leurs rires étouffés dérivaient dans les pièces. Au moins, me consolais-je, ce n'était pas leur frère qui aurait mis de l'huile de lutte partout sur mes sièges et essayé de tuer mes loups. Sauf que, bien sûr, cette éventualité était peu probable. Les fils n'étaient jamais punis. Je restais assise devant l'âtre en admirant le balai des étoiles par la fenêtre. J'avais froid. Aussi froid qu'un jardin en hiver qui hiberne profondément sous terre. Je pratiquais mes enchantements. Je chantais, travaillais à mon métier à tisser et élevais mes animaux. Mais tout semblait avoir rétréci au point de devenir minuscule comme des fourmis. L'île n'avait jamais eu besoin de ma main. Elle prospérait, quoi que je fasse. Les moutons s'étaient multipliés et se promenaient en liberté sur l'île. Ils déambulaient sur l'herbe, bousculant au passage les louveteaux au museau aplati. Ma lionne restait à l'intérieur, près du feu. Sa gueule était tachée de fourrure blanche. Ses petits-enfants avaient eu leurs propres petits-enfants, et ses hanches tremblaient sous ses pas. Il devait y avoir au moins 100 ans qu'elle vivait avec moi, marchant à mes côtés, et l'influence de ma divinité si proche avait allongé sa vie. Pour moi, cette période avait filé aussi vite que si 10 ans s'étaient écoulés. J'avais supposé qu'il y en aurait beaucoup d'autres, mais un matin je me réveillais pour la retrouver froide à côté de moi, sur le lit. Frappée d'une stupeur proche de l'hébétude, je fixais ses flancs immobiles. Quand je la secouai, une mouche s'envola en bourdonnant. J'ouvris de force ses mâchoires raidies et lui fourrai des herbes dans la gorge, psalmodiant un sort, puis un autre. Mais elle resta là, sa force dorée devenue d'un brun grisâtre. Peut-être Aétès aurait-il pu la ramener à la vie, ou m'aider. Moi, j'en étais incapable. Je lui construisis un bûcher de mes propres mains. Je coupai moi-même du cèdre, de l'if et du sorbier, leur moelle blanche jaillissant là où la lame avait mordu. Comme je n'avais pas la force de soulever la lionne, je fabriquai une civière avec le tissu pourpre que je lui enroulais jadis autour du cou. Je la traînai à travers la pièce principale sur les dalles polies par les coussinets de ses grosses pattes. Après quoi, je la hissai au sommet du bûcher, puis allumai le feu. Il n'y avait pas de vent ce jour-là, et les flammes mirent du temps à prendre. Il fallut tout l'après-midi pour que sa fourrure noircisse et que son long corps jaune se transforme en cendre. Pour la première fois, le glacial monde d'en bas des mortels m'apparut comme miséricordieux. Au moins, une partie d'eux-mêmes survivait. Ma lionne, elle, était perdue à jamais. Je regardai le bûcher se consumer jusqu'à la dernière flamme avant de rentrer à l'intérieur. Une douleur me cisaillait la poitrine. J'appuyai mes mains dessus, sur ses creux et ses os rigides. Assise devant mon métier à tisser, je me sentis enfin pareille à la créature à laquelle m'avait comparé Médée. Vieille, seule et abandonnée, aussi grise et sans âme que les rochers eux-mêmes.